France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La secousse vient des États-Unis et ça tangue très fort, mais elle a des effets de souffle chez nous aussi. Donald Trump nous donne à voir une forme de gouvernance, une forme de populisme, nous en discuterons, qui ne peut pas ne pas nous interroger nous aussi. Il secoue ses institutions, il secoue la démocratie, il critique la nôtre, il secoue la notion d'un pouvoir entier dont on ne sait pas dire à l'heure qu'il est, s'il est illibéral, s'il est autoritaire, on posera la question d'ailleurs, et ce qu'il dit aussi du fonctionnement des démocraties. Est-ce qu'il inspire une partie de notre société parce qu'il se présente comme un homme fort, est-ce que c'est aussi une de nos aspirations? Est-ce qu'au contraire, il nous permet de nous retrouver dans ce que nous sommes et d'interroger justement le sens de notre démocratie à nous? Nous sommes encore dans une phase politique qui nous a laissé un peu chaos à la fin de l'été dernier. Est-ce que le déplacement du centre de gravité de nos discussions aplanit aussi notre crise politique à nous? On vous posera également la question. Venez, c'est ouvert. Et c'est pour appuyer provisoirement, hélas, j'en ai peur, sur le bouton pause que nous avons voulu dialoguer avec vous, Pierre Rosanvallon. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Votre dernier livre parle des institutions. Vous avez écrit sur la démocratie, c'est votre matière première. Sur les populismes aussi, peut-être qu'on arrivera mieux grâce à vous à comprendre ce que nous traversons collectivement, si l'onde de choc américaine peut nous rattraper ou si nous saurons l'éviter. Si vous êtes avec nous jusqu'à 20h, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pierre Rosanvallon, j'en profite avant d'écouter notre premier auditeur qui s'appelle Marc et qui n'est pas très loin pour rappeler que vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes en histoire et philosophie du politique, et puisque j'ai cité les institutions invisibles, elles sont parues chez Seuil, on peut citer aussi le siècle du populisme, autant de choses qui nous intéressent grandement ce soir. Marc, c'est à vous, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonsoir Fabienne Sintès, bonsoir Monsieur Rosanvallon. Je voulais vous demander, Monsieur Rosanvallon, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'aux États-Unis comme en France, l'élection présidentielle au suffrage universel, en exacerbant les égaux, GOS, et en faussant le jeu des partis politiques, est-ce que donc cette élection présidentielle au suffrage universel n'est pas paradoxalement un obstacle à la démocratie?
Et merci Marc. Pierre Rosanvallon va vous répondre. Est-ce que le suffrage universel est l'une des explications, Pierre Rosanvallon?
Je crois que le suffrage universel a certainement bien des défauts. Et on peut dire qu'effectivement, des compétitions d'ambition, des compétitions de prétention ne sont pas ce qu'on pourrait attendre d'une élection, à savoir la recherche de la personne la plus vertueuse, la plus capable et la plus à l'écoute. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative à ce système de suffrage universel. Parce que le but de la démocratie, c'est de marquer des moments où on prend des décisions qui rendent tout le monde, d'un certain point de vue, d'accord. Or, s'il y a une chose qui rend tout le monde d'accord, c'est que 51 est supérieur à 49. Donc, il y a une espèce de vérité arithmétique simple de l'élection qui s'est imposée pour cette raison à tous. Mais évidemment, l'élection n'est pas la seule façon de produire de la démocratie. Et puis, il y a bien des techniques électorales différentes.
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire entre nos deux pays. Alors, c'est vrai qu'on fera beaucoup l'aller-retour. On ne va pas découvrir les montées de populisme dans nos démocraties, Pierre Rosanvallon, mais c'est vrai qu'on s'interroge à l'arrivée de Trump, est-ce qu'il est une sorte d'accélérateur en fait, qui nous met en face justement de notre fonctionnement à nous et qui nous interroge, qu'est-ce qu'il accélère chez nous cet homme-là?
Cet homme-là accélère plusieurs choses très différentes. Mmh. Il accélère d'abord la montée en puissance un peu partout de formes nationalistes fondées sur l'exclusion, fondées sur cette obsession de maîtriser ou de rejeter l'immigration, et donc une définition fermée de la nation. Mmh. Et ça, on la retrouve partout. Ça, c'est un point central. Mais Trump radicalise aussi une certaine conception qu'on a appelée illibérale, mais le terme est sûrement un peu trop vague.
Ah ben justement, j'allais me jeter là-dessus. Moi. C'est une démocratie illibérale, désormais, ou pas?
Une démocratie illibérale, on peut dire résumer très simplement les choses en disant une démocratie illibérale est une démocratie qui ne fait confiance qu'à l'élection et au suffrage, et qui ne respecte pas toutes les institutions de l'état de droit. Et quel est le problème? C'est que l'état de droit...
On est un peu à ça quand même en ce moment, quand on
écoute. Oui, mais c'est vraiment, c'est vraiment un discours que l'on entend partout dans le monde aujourd'hui, et y compris évidemment aussi dans notre pays. Le problème, c'est qu'on ne peut pas considérer que la démocratie a quelque sorte deux piliers. Un pilier qui serait le suffrage universel, et un autre pilier qui serait l'état de droit. Mmh. État de droit qui devrait contrôler, surveiller et en quelque sorte corriger le suffrage universel. Non, l'état de droit est un représentant du peuple, mais d'une autre façon. Le suffrage universel, il représente le peuple arithmétique, le peuple qui vote à la majorité, et ça n'est jamais l'unanimité. Mmh. Alors qu'il faut savoir qu'à l'origine des démocraties, il y avait cet idéal, au fond, qu'on arriverait à des sociétés de l'unanimité. Mmh. Ben, on en est très loin. Mmh. Nous sommes dans des sociétés divisées. Et donc, cette représentation du peuple par l'élection, elle est incontournable, mais elle a ses limites. Et que fait des institutions comme la justice, le droit? Il représente autrement le peuple. Ça représente le peuple de chaque individu. Pour le droit, chaque individu est important. Quand on le suffrage, eh bien, grosso modo, la minorité se couche devant la majorité et la minorité a très peu de droits. Mais alors que l'état de droit, c'est que chacun est considéré comme également important et qu'on défend cette individualité et les droits de chacun.
Mais quand on utilise ces institutions pour le pouvoir, quand on entend d'ailleurs beaucoup, même chez nous, qu'il faudrait parfois, non pas les effacer, mais en tout cas passer par-dessus certaines des institutions, notamment l'institution comme la justice d'ailleurs, et passer par-dessus les corps intermédiaires, qu'est-ce que ça nous dit quand même? Est-ce que c'est pas là qu'on frise, qu'on est à deux doigts de l'illibéralisme?
Oui, ben là on est en plein illibéralisme. On appellera à ce moment-là illibéralisme des conceptions uniquement électorales et majoritaire de la démocratie, et qui oublie que la souveraineté du peuple a aussi deux autres expressions. Cette expression des institutions qui défendent et représentent chacun individuellement, et ce sont évidemment, c'est la justice, c'est les cours constitutionnelles, mais également un autre type d'institution. Le peuple, personne ne peut dire « je suis le peuple », parce que le peuple, il n'est jamais unanime. Donc chaque personne élue représente un projet, mais il ne représente pas tout le peuple. Du coup, il est très important dans une démocratie qu'il y ait des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Personne ne peut dire « moi, je suis le peuple ». Et ça, c'est les autorités indépendantes, les formes de régulation que l'on a dans un certain nombre de domaines. Donc, si on veut développer la démocratie, elle n'a pas simplement une seule technique. La démocratie, elle a différentes figures, et on est dans l'illibéralisme dès qu'on simplifie la démocratie, dès qu'on la réduit à une seule de ses figures, le suffrage majoritaire.
Et en même temps, Pierre Rosanvallon, je vous écoute et j'entends ce que vous avez même mis dans votre définition du populisme. Quand vous dites effectivement personne ne peut dire je suis le peuple, mais ce que disent les populistes, c'est il y a nous, le peuple, et puis les autres. Alors il y a des variantes, hein, ça peut être les élites, etc. Il y a des points communs comme ça, une conception, disons, d'une démocratie qui commence par là et qui a des points communs. La démocratie américaine aujourd'hui, c'est quel populisme, par exemple? Est-ce qu'on le rentre dans une case de populisme ou pas?
Non, parce que je dirais, à chaque fois, il y a des variantes. Trump est certainement populiste au sens où il dit « moi, je représente le peuple véritable et mes adversaires, les démocrates, représentent le mauvais peuple, en quelque sorte, représentent les élites et représentent ceux qui n'ont plus les valeurs fondamentales de l'Amérique, mais qui sont en quelque sorte étrangers à leur propre patrie. Et donc, le populiste se définira par le fait qu'il considère qu'il est lui seul le représentant du vrai peuple.
Donc il ne l'est pas, en fait.
Non, il ne l'est pas, parce qu'effectivement, il y a bien des ouvriers qui votent démocrates.
Ah bah ça c'est sûr, représentant du vrai peuple, ça c'est sûr, mais vous le mettez dans la case populiste,
au sens très large du terme, parce qu'effectivement, il a la rhétorique populiste, il a le langage populiste de l'exclusion, il a le langage populiste classique de l'identité.
Nous avons Ilan qui nous attend et qui est dans le Val d'Oise. Bonsoir Ilan.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Ilan.
Oui, en fait, ma question, c'était par rapport à la démocratie représentative et participative et l'importance de la démocratie représentative en prenant en compte le fait que je considère que la démocratie participative est incompétente, alors que de l'autre côté, la démocratie représentative est capable. Et donc, en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas un remplacement de l'une par l'autre, mais qu'en fait, c'est une complémentarité.
Incompétente.
Voilà, donc c'était à la fois une question et une remarque en même temps, excusez-moi.
Mais je vous en prie, Ilan, merci beaucoup. Incompétente contre capable entre la démocratie représentative et la démocratie participative, Pierre Rosanvallon.
Oui, d'abord, il faudrait définir bien la démocratie participative, mais il est certain que dans l'idée de démocratie représentative, telle qu'elle a été définie dans la Révolution française elle-même, il y avait l'idée que ceux qui allaient être élus, les députés, étaient aussi des personnes plus capables que le reste de la société. Et donc, il y avait une dimension capacitaire dans la représentation. Alors qu'aujourd'hui, on insistera sur une autre dimension de la représentation. C'est que la représentation, elle doit être la parole. Elle doit porter la parole d'un certain nombre de personnes. Et la vraie représentation n'est pas simplement définie par des procédures, l'élection. La représentation, c'est aussi porter la parole des groupes sociaux. Et traditionnellement, on peut dire que la distinction gauche-droite traditionnelle, autrefois, c'était de dire, la gauche, c'est la parole, on peut dire, du bas de la société, là, c'est la parole du mouvement populaire, et puis la droite, c'est la parole davantage des élites. Et aujourd'hui, paradoxalement, c'est le contraire. On accuse d'être représentant des élites, ceux qui étaient traditionnellement considérés comme étant de gauche.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réclament aujourd'hui une démocratie plus participative. Je reprends la remarque d'Ilan, est-ce qu'une démocratie plus participative, c'est plus de démocratie ou c'est l'effacement des politiques ?
Je crois qu'il faut bien entendre ce terme de démocratie participative, parce qu'il est très vague. Participer, qu'est-ce que cela veut dire ? Je crois que ce qu'on peut voir derrière la notion de démocratie participative, c'est tout un certain nombre de fonctions démocratiques. C'est la délibération, la discussion publique, c'est la représentation, c'est le contrôle, c'est le fait de pouvoir, d'une manière ou d'une autre aussi, surveiller les pouvoirs. Il y avait un grand philosophe anglais, Bentham, qui disait « La démocratie, c'est à la fois la voix du peuple, c'est il peut manifester, il a son bulletin de vote, mais c'est aussi l'œil du peuple. Mmh. Et je crois que la démocratie participative doit être entendue de cette façon. C'est organiser l'œil du peuple. L'œil du peuple et ses autres modalités de prendre la parole. Prendre la parole, quand on voit par exemple qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, on a organisé un grand débat national, eh bien, il y a d'autres façons d'être représenté que d'avoir voté pour quelqu'un. C'est de prendre soi-même directement la parole. Donc, une démocratie développée, c'est une démocratie qui donne corps à toutes ses fonctionnalités, à savoir prendre la parole, pouvoir surveiller les pouvoirs, que ceux-ci rendent des comptes. Donc, c'est élargir le sens de la démocratie. La démocratie, ça n'est pas simplement donner un permis de gouverner à quelques-uns.
On reparle
la
beaucoup.
Démocratie, ce sont faire vivre toutes ses fonctions.
On reparle beaucoup de référendum, c'est intéressant parce qu'on en parle aux deux extrêmes, mais Emmanuel Macron en a parlé aussi, et à ce moment charnière d'ailleurs, où finalement il perd une partie de ses pouvoirs, parce qu'on est dans une espèce de forme de cohabitation qui ne dit pas son nom, on reparle de référendum à ce moment-là. Est-ce que c'est la recette miracle ? Est-ce que c'est la fausse bonne idée, selon vous,
le référendum, a une pertinence dans certains cas. Il est évident que si on veut changer de constitution, il y a deux façons de le faire. On peut le faire en rassemblant le Congrès, mais on peut le faire par référendum. En général, on peut dire que le référendum est une bonne idée quand la question posée trouve tout de suite les conditions de son application. Dans certains pays, par exemple, il y a eu des référendums sur le mariage pour tous, ou sur le droit à l'avortement. Et là, c'est très simple, parce que s'il y a un référendum sur le mariage pour tous, le référendum dit « nous autorisons le mariage pour tous », eh bien, le lendemain matin, on le met en application. Mais on ne peut pas faire de référendum sur ce qui est de l'ordre de politique générale, parce qu'à ce moment-là, on ne dit pas comment s'y prendre. Les Suisses, par exemple, c'est très intéressant, parce qu'il y a très souvent des référendums en Suisse, c'est le pays des référendums, des votations, et en même temps, on ne peut pas les appliquer. Il y a quelques années, il y a eu un référendum en disant « il faut arrêter l'immigration en Suisse ». Et donc, il y a une majorité. Mais tout de suite, on a dit, mais arrêtez l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Est-ce c'est intéressant, que... la question n'a pas de sens, donc la réponse non plus.
Voilà, en tout cas comment s'y prendre ? Vous voulez cesser les accords frontaliers qu'il y a avec la France, l'Allemagne, l'Italie ? Vous voulez qu'on sorte des liens avec l'Europe ? Donc, un bon référendum, c'est un référendum dont la question est posée dans des termes qui impliquent les conditions immédiates de son application. Donc, pas de référendum flou. Les référendums flous, c'est juste pour la galerie.
Pierre Rosanvallon, je voudrais qu'on continue, on va retourner au standard dans un instant, nos allers-retours avec ce qu'on vit, ce qui nous arrive des États-Unis, ce que nous vivrons peut-être derrière. Moi, je suis, ce qui vous a peut-être frappé comme beaucoup, c'est la charge de J.D. Vance contre nos démocraties à Munich, une charge qui a sidéré l'Europe. Il nous a dit qu'on avait perdu notre liberté d'expression. Enfin, il a été extrêmement sévère, loué les partis autoritaires également. Comment vous l'avez reçu, vous, ce discours ? Qu'est-ce que ça dit, en fait, ce regard-là sur nos démocraties à nous ?
Ce discours a été très violent parce qu'il était une agression manifeste vis-à-vis des Européens, mais en même temps c'est le discours que l'on entend aussi en France tous les jours. C'est ce discours, il traduit le fait que la ligne de division fondamentale dans les sociétés aujourd'hui n'est plus simplement une division économique, comme on disait autrefois, une division de classe, mais qu'elle est une division culturelle. Elle est une division entre une certaine vision de l'individu, de son autonomie, de la tolérance, du pluralisme, et puis des conceptions beaucoup plus identitaires, fermées sur elles-mêmes. Et les États-Unis, qui étaient le pays illustrant, je dirais, une définition de l'ouverture, de la tolérance, du multiculturel, comme on dit, eh bien maintenant, il est devenu le champion, au contraire, de la fermeture. Et les attaques contre ce qu'on appelait le wokisme sont présentes partout. Et là, effectivement, il y a des nouvelles solidarités qui se manifestent.
Et je me disais, est-ce qu'on se vexe de ce discours-là ? Ou au contraire, est-ce qu'on se félicite d'être ce que, visiblement, là, Vance nous défend d'être. Est-ce que, disons-le comme ça, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, en fait, qu'on nous regarde de cette manière-là?
Oui, qu'on nous regarde de cette manière, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est un pays de l'ouverture, de la tolérance, de la diversité, mais c'est une mauvaise nouvelle, en ce sens que cela montre que ces idées-là progressent dans le monde, et qu'elles aient pris l'ascendant dans les États-Unis, qui est au contraire le pays typique de l'immigration, de l'ouverture, est un signe qui s'est traduit par le fait que sur ce point, Vance se trouve plus proche des Russes et du discours de Poutine allié à Kirill, le chef de l'Église orthodoxe, que proche des Européens.
On va aller au standard, mais on y reviendra, parce que ça nous interroge aussi sur l'envie, le désir d'autorité qu'on peut avoir, parce que c'est aussi ça qu'ils incarnent en ce moment. D'abord, je voudrais qu'on passe par Luc, par les Pays de Loire. Bonsoir.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Ah, mais très bien, allez-y, Luc.
Oui, alors moi, j'ai l'impression, dans le monde où on est, qu'on est dans l'heure de la post-vérité, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à se mettre d'accord sur les faits. Et c'est ça qui explique c'est une partie des fondements démocratiques. La science est contestée, les faits sont contestés, donc on a des chaînes d'information d'ailleurs qui manipulent. Et ça peut être sur le climat, ça peut être un autre élément comme la croissance aujourd'hui, où, bon, finalement il n'y a plus de croissance dans le monde occidental, donc les gens on ne dit pas la vérité, donc il n'y a pas de solution. Et on tourne en rond. Voilà, j'ai ce sentiment que. Aujourd'hui, si on ne se met pas d'accord sur les faits, c'est comme disait Hannah Arendt, hein, je crois, là-dessus, à partir du moment où une démocratie, on n'est plus d'accord sur les faits, on ne peut pas arriver à des solutions communes.
Merci beaucoup, Luc, pour votre intervention, Pierre Rosanvallon. Il a raison, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les faits. Ça a l'air d'être une phrase qui ne veut rien dire quand on le dit comme ça, parce qu'on devrait tous être d'accord sur un fait.
Oui, mais très loin. Le fait est, justement, qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce qui se passe. Et pourquoi ça n'est pas ce qui se passe ? C'est que l'idée qu'il y ait différentes vérités s'est imposée comme, je dirais, une nouvelle lecture de la société. Moi, je vis dans une institution, le Collège de France, où il y a beaucoup, la moitié de scientifiques, et nous avons réfléchi ensemble au fait que même des grands savants ne sont plus respectés aujourd'hui. Et pourquoi ne sont-ils plus respectés ? Parce qu'on leur dit, votre discours, c'est un discours d'en haut. C'est un discours des élites. Donc, d'un certain point de vue, on rattache toujours la parole à la qualification sociologique ou politique de celui qui parle. Et c'est pour cela que mettre fin à cette espèce de chaos intellectuel dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement refaire en sorte qu'on refasse société d'une certaine manière. C'est parce que nous ne faisons plus société que des vérités alternatives se présentent comme des vérités qui sont combattantes et qui ont le même droit au respect que les autres vérités. C'est parce que peut-être des personnes ne sont pas respectées personnellement, qu'elles ont le sentiment qu'elles se donnent une sorte de fierté, une sorte d'assurance en s'abritant derrière ce qu'on peut appeler des contre-vérités.
Et aussi parce que peut-être il y a une espèce de primauté des passions, des émotions, donc on ne dit plus je ne sais pas, mais on n'est pas d'accord, y compris sans argument. C'est aussi ça, on a mis l'émotion en avant dans les sociétés aujourd'hui. On le voit d'ailleurs à chaque cycle électoral, on l'a vu au mois de novembre aux États-Unis, mais on le voit chez nous aussi à chaque cycle électoral. Non,
mais derrière les émotions, il y a aussi très souvent du malaise social. Derrière les émotions, il y a un sentiment de mépris, il y a un sentiment de vouloir reconquérir de la fierté, de vouloir reconquérir de la reconnaissance. Et hélas, il faut le constater, un certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui ont le sentiment qu'ils répondent au mépris dont ils pensent faire l'objet en adhérant à ces formes de contre-vérité qui leur redonnent un statut, qui leur redonne une raison d'être fiers d'eux-mêmes.
On parle de démocratie, on parle de populisme, on parle de France et des États-Unis avec Pierre-Rosan Vallon. Au téléphone sonne ce soir et avec vous, Anselme, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui. Moi, je me pose une question au sujet de l'équipe Trump et de ses excès actuels. Et cette question me taraude. Alors, je préfère dire tout de suite que, évidemment, c'est ce qui nous apparaît est absolument, c'est tonitruant. Ça va peut-être finir en crash hein, pour la politique des États-Unis. Mais je me demande tout de même s'il ne faut pas se poser une question. Et la question, elle est celle-ci. Est-on capable, dans nos démocraties, qui est tout de même le meilleur des systèmes politiques, M. Rosanvallon sera sûrement d'accord, est-ce qu'on est encore capable de secouer les habitudes, de revoir des politiques? On a des exemples, je dirais, à peu près tous les jours, c'est-à-dire, je pense par exemple en France, à la politique de santé, à la politique du logement. On se demande si on est capable encore de revoir des politiques. Et donc l'effet Trump, en gardant la mesure des choses, n'est-elle pas une incitation pour nous à tout de même, quelquefois, je vais parler un peu vulgairement, à secouer le cocotier et à revoir des choses qu'on est visiblement plus capable de revoir. On empile, et on est quelquefois incapable de remettre à plat des politiques et de repartir, peut-être pas de zéro, mais en tout cas de repartir pour réfléchir. Et cet effet Trump est peut-être intéressant sur le plan intellectuel à ce niveau-là.
Voilà. Merci beaucoup Anselme pour cette remarque. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et qu'on l'entend ici aussi, Pierre-Rosan Vallon. Alors oui, ça fait beaucoup de bruit, mais au moins il agit, au moins il fait des choses, il met un coup de pied dans la fourmilière. On l'entend beaucoup ça aussi.
Oui, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de dire une parole forte a en quelque sorte un pouvoir performatif, hein, puisque je parle haut et fort, j'agis.
Et puis il y a aussi l'État inopérant, c'est aussi ce que dit Anselme. Alors, l'État est inopérant et au moins, il le met sur d'autres routes.
Voilà, mais je crois que la notion d'État inopérant tient au fait que beaucoup de politiques sont décidées sur des bases statistiques, des bases générales, et on ne décline pas tout un ensemble de politiques, par exemple sur le climat, de politiques agricoles, en pensant spécifiquement à toutes les populations qui sont directement concernées et touchées. On mène des politiques générales en fonction de grands principes, mais on ne voit pas comment elles touchent, elles concernent le corps social dans sa, on peut dire, dans sa chaleur, dans la façon très précise qu'il a de réagir et de vivre les choses. Et c'est l'histoire exemplaire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est une vision des taxes sur les carburants qui a sa rationalité générale, générale, mais on oublie que derrière cette rationalité générale, eh bien, il y a des façons différentes de vivre la voiture. Il y a des façons différentes d'habiter le territoire. Et que la politique, d'un certain point de vue, doit se concrétiser. Ne plus simplement être une politique de la statistique, une politique des mesures générales, mais voir à chaque fois qui est pratiquement concerné. Et ça, on le sent dans un domaine absolument central et évident pour nous aujourd'hui, ce sont les politiques du climat. Mmh. On voit bien à quel point nous avons du mal à appuyer sur l'accélérateur. Et on a du mal à appuyer sur l'accélérateur parce qu'à chaque fois, on pense en termes de politique générale. Et si on regarde par exemple des questions comme celle de l'eau, qui était évoquée tout à l'heure dans la météo, eh bien, c'est l'eau, ça n'est pas la même chose si on voit celui qui est près des nappes phréatiques et qui cultive son champ, et celui ensuite qui va consommer l'eau en ville. Donc, il faut à chaque fois, je dirais, redonner un contenu de société sensible aux politiques que l'on veut mener pour pouvoir les développer.
Alors, c'est compliqué, effectivement, avec le pouvoir qui est le nôtre. C'est pas ce que font les États-Unis non plus, parce que lui explose, en fait, les institutions. Il les met réellement à plat. Mais est-ce qu'au fond, le point commun, et je reviens à la question d'Anselme, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Pierre-Rosan Vallon, est-ce qu'il n'y a pas qui sous-tend quand même un désir d'une autre autorité? On le voit chez nous, dès lors qu'on parle des migrants, dès lors qu'on parle de beaucoup de choses, d'ailleurs, je n'ai pas d'exemple en tête, voyez, mais des trafics, du trafic de drogue, etc. On voit ce désir-là. Est-ce qu'il y a un désir d'autorité aujourd'hui qui s'exprime et qui ne s'exprimait pas, qui s'est relâché, en fait, par rapport à ce qu'on pouvait dire précédemment ou pas?
Ce désir d'autorité, je pense qu'il est très ancien, mais qu'il faut bien voir qu'il y a deux types d'autorité. Il y a une autorité qui est une autorité directement active, performative, qui est celui qui dit « moi je vais tout chambouler pour changer les choses ». Et puis il y a une autre type d'autorité, qui à mon avis est la vraie autorité au sens authentique du terme. À ce moment-là, l'autorité, c'est la parole qui aide chacun à se situer dans la société. L'autorité, c'est ce qui donne une bonne direction. Ça, c'est l'autorité qui est davantage morale. C'est l'autorité qui est davantage une autorité de la direction. Et je pense que actuellement dans nos sociétés, il y a un conflit entre ces deux autorités. Il y a l'autorité de tonitruante et puis l'autorité qui est un guide et l'autorité qui permet à chacun de se retrouver dans le collectif. Et donc, c'est cette deuxième forme d'autorité, il me semble, dont on a bien besoin, et parce qu'on ne la développe pas, eh bien, c'est l'autorité tonitruante qui prend les devants et qui est, d'un certain point de vue, souvent désirée.
Et alors, et qui donc met à bas les institutions, qui par ailleurs semble nous dire, mais de toute façon vous allez dans des impasses, vous êtes trop compliqués, vous êtes trop normés, vous êtes imperméables aux négociations, les choses n'avancent pas, donc on a besoin de passer dessus aussi. Est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas ça à craindre finalement, de se dire que toutes ces institutions, tous ces intermédiaires-là, il va falloir sauter dessus, passer par-dessus, parce que finalement elles nous retiennent. C'est aussi ça que j'entends dans ce que font les Américains en ce moment, et qui peut-être nous pend au nez à nous.
Oui, mais à ce moment-là, ce qu'il faut voir, c'est que la demande d'autorité est aussi une demande souvent d'efficacité.
Ouais.
Mais cette demande d'efficacité, qu'est-ce qu'elle veut dire?
Et on confond les deux, hein, je suis bien d'accord avec vous.
Mais elle va vouloir dire, eh bien, c'est silence dans les rangs.
Ouais.
Alors que s'il est difficile de gouverner, si les réformes sont difficiles, c'est qu'il y a des intérêts contradictoires. Il y a des intérêts parce que il y a des territoires différents, parce qu'il y a des intérêts économiques différents, parce qu'il y a des visions culturelles différentes. Et ce serait très facile l'action. Ce serait très facile de gouverner avec des baguettes magiques si tout le monde se taisait dans les rangs. Si la société est une société de moutons, eh bien, dans une société de moutons, effectivement, un chef mène tout le monde à la baguette et tout se passe bien. Mais nous ne sommes pas dans des sociétés de moutons. Et c'est ça le paradoxe de ceux qui voudraient une autorité extrêmement active et qui passe par-dessus tous les blocages. Eh bien, ils ne voient pas que cette demande, au fond, elle ne peut être mise en œuvre que si on leur dit « silence dans les rangs ». et alignez-vous derrière le chef. Et à ce moment-là, on entre dans ce qu'on appelle les totalitarismes.
Et là aussi, quand vous regardez évoluer les États-Unis en ce moment, est-ce qu'on parlait d'illibéralisme tout à l'heure, est-ce que vous vous dites que c'est une ligne de crête sur laquelle on peut tomber facilement, y compris une grande démocratie comme la leur? Est-ce que ça fait partie de vos inquiétudes ou est-ce que vous vous dites oui, non, on est très très loin de ça?
Non mais vraiment, oui, ça fait absolument partie de mes inquiétudes, parce que qui aurait pu imaginer, il y a encore 10 ans, moi j'ai enseigné aux États-Unis, j'ai eu des doctorants américains, je connais ce pays, et il y a 10 ans, je n'aurais pas imaginé une seconde que nous pourrions vivre un jour ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que bien sûr, on l'a vu dans un certain nombre de cas, il y a des juges qui se sont prononcés contre des décisions de Trump, mais s'ils passent par-delà cette vision, cette décision des juges, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on entre dans le régime autoritaire. Et donc, on voit là très précisément comment un pays qui était peut-être celui dont les institutions paraissaient démocratiques les plus solides, les contre-pouvoirs les mieux établis, même une culture du compromis extrêmement vivante, et bien être capable de vaciller.
Et c'est pour ça que je m'interrogeais, parce que quand on fait les allers-retours entre eux et nous, parce que je me demandais si lorsqu'une démocratie de cette ampleur-là, de cette histoire-là, s'effondre ou vacille, en tout cas, jusqu'à quel point c'est contagieux, c'est une sorte de top départ, en fait, pour nous tous qui sommes pas très loin sur la ligne.
Oui, en tout cas, ça montre la direction du gouffre dans lequel nous pouvons aller. Et ce qui précipite cette direction, eh bien, c'est le fait que la société américaine, aujourd'hui, est dans un état de division encore beaucoup plus profond que la nôtre. La société américaine était divisée il y a un peu plus d'un siècle et demi par la question de l'esclavage, et aujourd'hui, par les questions culturelles, c'est un clivage absolument central. Et une démocratie ne peut pas vivre quand des groupes de personnes dans la société se pensent comme étant des ennemis définitifs.
Écoutez cette remarque de Claire qui nous arrive et qui dit ceci. « Peut-être que les gens qui savent, dit-elle, doivent expliquer les choses sans une pointe de mépris. J'ai senti beaucoup de mépris pendant le Covid, par exemple, de la part des politiques, et ça pousse les gens vers les extrêmes. » C'est intéressant qu'elle arrive à ce moment-là de notre conversation, Claire, parce que moi j'ai le sentiment justement que c'est pendant cette période du Covid que beaucoup de démocraties ont basculé. On fera un téléphone sonne bientôt. Les États-Unis, c'est très clair. Au moment du masque, au moment du vaccin, au moment de ces obligations-là, en fait, il y a cette bascule, peut-être plus importante aux États-Unis que chez nous, mais est-ce que la bascule n'est pas exactement là? Elle parle des gens qui savent et qui ont regardé les autres avec beaucoup de mépris.
Oui, je crois que c'est une remarque très forte, qui me semble forte et juste à la fois, parce que même si un savant pense qu'il donne la bonne direction, il faut toujours montrer la complexité des choses. Le savoir ne doit pas être quelque chose qui dégringole sur la tête des personnes. Le savoir, il doit apparaître comme étant la résultante de tout un certain nombre d'interrogations. Le vrai savoir, il est interrogatif. Le vrai savant, c'est celui qui se pose en permanence des questions. Le vrai savant, ça n'est pas celui qui balance des certitudes sur la tête des ignorants.
Catherine est avec nous. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. On a peu de temps, mais on a du temps pour vous. Allez-y.
Je fais vite. En fait, je me posais la question, là, toute seule en vous écoutant. Je me disais, mais est-ce que c'est possible de continuer avec une pensée uniquement économique? C'est-à-dire avec ce système de pensée qui va uniquement dans l'économique, avec rentabilité, profit, les impacts qu'on connaît. Et on voit bien qu'humainement, il y a des impacts catastrophiques, c'est-à-dire de plus en plus de suicides de jeunes, beaucoup de gens qui vont pas bien, etc. Donc on peut se dire que l'économique et le tout économique n'est pas, disons, ce qui peut équilibrer une société. Et peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose qui est en train de s'effondrer et qui est peut-être des croisées de chemin économique qui auraient peut-être autre chose à dire, soit avec des philosophes, soit avec des sages. Mais en tous les cas, on ne peut pas retrouver le système d'avant parce que, pour moi, il est mortifère. Et là, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de changement ?
Pierre-Rosan Vallon.
Je crois que vous avez raison d'insister sur la réduction qu'opère une vision uniquement économique des sociétés. Parce que les sociétés ne se sont pas simplement des individus caractérisés par des chiffres, par des statistiques. Une société, ce sont des relations. Une société, ce sont des difficultés. Une société, ce sont des aspirations. Et donc, plus on emploie un langage économique, plus on réduit la vision du monde social à un certain nombre d'indicateurs, justement, économiques. Alors que la société, elle est aussi la recherche d'une identité pour les individus, elle est la recherche de relations positives, elle est la recherche d'une certaine fierté, elle est la recherche d'une certaine autonomie. Et donc, c'est très important que la politique fasse attention à être à l'écoute de ces demandes, de ne pas réduire la société simplement à un certain nombre de données statistiques et donc de données économiques.
Il y a sur WhatsApp un auditeur qui nous parle de nostalgie. Il nous dit « Make America Great Again », par exemple, c'est un sentiment de nostalgie. C'est aussi le sentiment, nous dit-il, d'un environnement social qui autrefois était prévisible et qui désormais ne l'est plus. Des repères qui étaient clairs et qui désormais ne le sont plus. Et c'est ça qui nous emmène là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est allé un peu vite, Pierre-Rosan Vallon ?
Oui, c'est allé un petit peu vite parce que l'histoire des sociétés, elle a été l'histoire de ces grandes divisions. Hein. Elle était l'histoire de ces grandes divisions sociales. Elle était aussi, après la Révolution française, il y a eu un grand backlash. Après, hein, les conservateurs ont voulu revenir à un monde de l'Ancien Régime. Et le 19e siècle, c'était aussi le conflit entre ces deux choses-là. Donc, les sociétés, elles sont divisées. Pour des raisons, il y a des divisions économiques que l'on essaie de surmonter avec de l'État-providence ou un peu plus d'égalité, mais elles sont divisées culturellement et je crois qu'une société s'apaise quand on trouve des formes de transactions économiques pour plus de justice et quand on sait à être à l'écoute des uns et des autres.
C'est intéressant ce que vous nous dites sur le fait que quand on trouve des transactions économiques, ça peut marcher. Vous le dites d'ailleurs dans un de vos livres, que le commerce ne peut fonctionner que grâce à la confiance. On voit très bien que c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis. Et c'est par le commerce qu'on essaye de casser la confiance. Juste un mot, ce sera le dernier parce que l'heure a tourné. Pierre-Rosan Vallon, je me demandais désormais si, à votre avis, le trumpisme devenait l'étalon du populisme par rapport aux élections que nous avons, nous, en face de nous, mais pas seulement nous, les Français, les Allemands qui ont voté, d'autres qui vont le faire bientôt.
Oui, je dirais, il est l'étalon du populisme dans les pays les plus développés. Parce que jusqu'à maintenant, quand on parlait des grands pays, des grands leaders populistes, c'était Chavez au Venezuela, c'était toujours des leaders, disons, de pays moins développés.
Oui,
Trump, c'est le pays le plus fort économiquement qui a à sa tête un populisme et donc, de cette façon-là, il rajeunit et il renforce la vitalité du populisme, parce que c'est le populisme des riches, c'est le populisme des forts, et c'est le populisme de ceux qui veulent mettre à leur botte l'ensemble de la planète.
Le siècle du populisme, c'est l'un de vos ouvrages qui a 4 ou 5 ans maintenant, c'était au tout début de la fin de la période Trump, mais on peut encore le lire aujourd'hui. Les institutions invisibles, c'est le dernier paru chez Seuil. Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon,
merci
à tous pour vos questions.